Ça se passe loin de nous, mais il faut s'en occuper. Je vous parle du conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, ça se passe dans ce qu'on appelle le Caucase. Et il y a beaucoup de Québécois d'origine arménienne qui vivent chez nous, qui nous écoutent d'ailleurs. Et là, on va aller rejoindre Lara Aronian. Elle est travailleuse humanitaire. Elle est présentement en Arménie. Bonjour, Lara.
Bonjour.
Alors, ce que l'on lit, c'est qu'on en serait maintenant rendu à 5000 morts dans ce conflit armé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc pour le contrôle de ce qui s'appelle le Haut-Karabakh. Alors, juste pour être bien clair, le Haut-Karabakh, c'est une enclave qui est habitée par des Arméniens, donc des Arméniens qui sont de confession chrétienne. Et l'enclave est située à l'intérieur d'un territoire, l'Azerbaïdjan, donc un pays à majorité chiite musulmane. Et ça fait des années qu'ils sont en conflit ouvert. Dites-nous comment ça se passe.
Moi, je travaille ici surtout pour assurer l'aide humanitaire, parce que depuis un mois déjà, étant donné que le Haut-Karabakh n'est pas reconnu internationalement, l'aide humanitaire n'arrive pas. La population civile souffre énormément. Comme vous avez dit, il y a beaucoup de morts, de blessés, et à peu près 60% de la population est déplacée de leurs maisons, des villages, des villes, pour aller dans une place un peu plus sécure. Surtout les femmes, les enfants, les personnes âgées. La majorité de la population est dans les abris pour se protéger des bombardements qui arrive à n'importe quel moment de la journée. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'aide internationale qui arrive, nous, des organisations locales, nous travaillons là-bas, et la population qui est présentement en Arménie essaye de se mobiliser pour aider les gens, les réfugiés, ceux ou celles qui sont déplacés de cette région-là.
Parlez-nous des victimes. Ils sont victimes, c'est quoi? C'est des tirs d'obus, des tirs de roquettes?
C'est de toutes sortes de bombardements qui sont utilisés, très sophistiqués, très avancés sur la population civile, qui font beaucoup de dégâts. Des villes entières ont été détruites à cause de ces bombardements. Il y a aussi de l'artillerie qui est illégale internationalement, qui est utilisée, qu'on appelle des bombes balistiques. Je ne sais pas comment traduire exactement. Mm-hmm. Que Human Rights Watch a reconnu publié un rapport en condamnant l'usage de cette artillerie qui n'est pas légale internationalement. Et beaucoup de gens souffrent de ça. On a les hôpitaux ici, par exemple, en Arménie, sont pleins de blessés. Et en plus, on a la pandémie qui est très forte maintenant. On a 2500 personnes par jour qui sont infectées de COVID. Donc déjà, les hôpitaux étaient surchargés, et maintenant, il y a les blessés par milliers qui arrivent du Haut-Karabakh vers les hôpitaux en Arménie, à Yerevan, et un peu des villes à côté qui sont complètement surchargées.
Pourquoi c'est important pour l'Arménie de prêter main forte au Haut-Karabakh, qui est un territoire peuplé par des Arméniens? Mais quelle est la valeur stratégique du Haut-Karabakh? Pourquoi c'est important?
Imaginez, c'est une enclave où il y a une population d'à peu près de 150 000 qui est en train de se battre contre une population de 10 fois plus, même plus, 10 millions et plus. Et en plus, la Turquie qui soutient aussi avec plus que 80 millions de population, avec deux armées qui sont présentes. Et en même temps, la Turquie aussi a aidé l'Azerbaïdjan en amenant des djihadistes, des mercenaires de la Syrie pour se battre contre les Arméniens à la frontière. Donc ça a vraiment été très... dangereuse comme situation, surtout par la venue des djihadistes qui sont maintenant un peu partout sur la frontière en train de se battre avec l'armée azerbaïdjanaise. Donc, l'enclave et les Arméniens du Haut-Karabakh n'ont aucun soutien à part le soutien de l'Arménie. Donc, c'était naturel d'avoir le support de l'Arménie présentement, parce que c'est aussi l'implication de la Turquie qui, on sait historiquement, a cette histoire de après l'histoire du génocide, qui a aussi cette stratégie de continuer la guerre envers les Arméniens historiquement, et qui se poursuit présentement autour du Haut-Karabakh.
C'est ça, il faut pas perdre de vue. Je pense que c'est important de rappeler que l'Arménie, les Arméniens, ont été victimes du gouvernement turc en 1915 lors de ce qu'on a appelé le génocide. Il y a eu 1,5 million d'Arméniens qui ont été tués par la Turquie. Et c'est cette même Turquie qui appuie maintenant l'Azerbaïdjan dans cette offensive contre cette petite enclave arménienne, le Karabakh. Il y a une dimension historique très forte là-dedans, là.
Oui, exactement. C'est pour ça que l'implication de l'Arménie, c'est très naturel, et c'est très parce que c'est une guerre de survie qui vient de l'histoire, et qui est très présente avec le conflit. Et comme l'Azerbaïdjan complètement est uni à la Turquie, donc d'une façon, ils n'ont pas le choix que de se défendre sur ce territoire-là, parce que ceci est aussi une menace à l'Arménie, qui est une jeune démocratie dans le Caucase. Il y a juste 2 années qu'on a eu la révolution, et c'est une démocratie qui se développait, et c'est une menace, cette guerre, pour cette démocratie-là.
Parlez-nous des victimes que vous voyez arriver du Karabakh. Donnez-nous des exemples concrets de ce qu'elles ont vécu. C'est quoi? C'est les maisons? Par exemple, les maisons se sont effondrées sur ces personnes. Ils étaient chez eux, puis là, il y a un obus ou une roquette qui est tombée sur la maison. Racontez-nous.
Nous, on a accueilli beaucoup de femmes, de mères de famille, qui ont été obligées de s'enfuir en milieu de la nuit avec des jeunes enfants. Il y a des mères aussi qui ont amené avec elles d'autres jeunes enfants, parce qu'il y a des femmes qui sont restées pour aider, pour soutenir les soldats, pour aussi rester comme support en général. Donc, c'était des jeunes mères qui arrivaient avec beaucoup d'enfants, qui n'avaient même pas de vêtements, ou bien on était obligé de leur donner beaucoup de choses comme des vêtements, de la nourriture, une maison, des médications qu'elles avaient besoin. On a eu beaucoup de blessés aussi qui étaient venus. Il y a des gens, malheureusement, qui n'ont pas pu venir, qui étaient trop tard. On a vu dans les nouvelles, par exemple, ceux qui ont ou celles qui souffrent d'un handicap physique, ils n'ont pas pu quitter à l'heure, et des personnes âgées. On a vu que des mercenaires étaient entrés dans les maisons des gens, les tuer. En fait, comme dans des villages surtout. Et les autres qui sont restés, ils ont resté beaucoup de temps dans les abris, pendant des semaines sous les bombes. Il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui ont perdu la famille, surtout les pères de famille qui sont dans le front, donc au front, et qui ne retournent pas. Et des fois on entend, des fois on ne sait pas, parce que le cessez-le-feu qui était annoncé il y a quelques semaines, humanitaire, pour essayer de trouver aussi, de dégager les corps des soldats, n'a pas eu lieu. Ça n'a pas été respecté par l'Azerbaïdjan. Et donc, il y a plusieurs familles qui attendent des nouvelles, qui restent ici à Yerevan, dans des résidences temporaires que le gouvernement leur a fournies avec l'aide des ONG, mais qui attendent des nouvelles. Il y a beaucoup de traumatismes chez les jeunes, chez les enfants, qui ont très peur, parce que c'est la deuxième guerre qu'ils voient. La première, c'était en 2016, 4 jours de guerre, qui était aussi très traumatisante. Et ça, c'est la deuxième fois qu'ils vivent ça.
Est-ce que ça va se terminer bientôt, vous croyez? Est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu?
J'espère beaucoup. C'est pour ça que c'est très, très important que d'autres gouvernements, comme le Canada, par exemple, les États-Unis, la France, l'Europe, interviennent dans cette guerre en faisant de la pression sur l'Azerbaïdjan pour respecter le cessez-le-feu, aussi en faisant pression pour que la Turquie ne s'implique pas dans cette guerre, parce que c'est vraiment maintenant une catastrophe humanitaire qu'on est en train de vivre présentement.
Lara Aronian, travailleuse humanitaire qui a passé plusieurs années à Montréal, n'est-ce pas, Lara? Vous avez vécu parmi nous au Québec. D'ailleurs, vous avez votre diplôme d'ici, hein, d'une université de Montréal.
Oui, j'ai fait mes études à l'Université de Montréal en psychoéducation. J'étais beaucoup intéressée avec le travail humanitaire parce que c'est ce qu'on nous apprenait aussi à l'Université à Montréal, nous encourager. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être intéressée de faire du bénévolat aussi et du travail ici en tant qu'aide aussi en développement.
Bon courage, Lara qui nous parlait donc depuis Erevan, la capitale de l'Arménie.